Et le mot est de Fatima. Hein. Je l'attribue. Une révolution féministe doit plonger hommes et femmes dans un bain de tendresse. Et nous sommes dans ce bain de tendresse. Nous sommes dans ce bain de tendresse. Tout de suite, en fin de compte, je vais donner la parole aux intervenantes qui vont nous parler du pouvoir, le politique et les femmes. Et en premier lieu, à Azadeh Kian. Et je viens d'apprendre que Azadeh veut dire femme libre.
Wow. Vous voyez. En persan.
Kian est sociologue. Elle est à l'Université Paris Diderot et donc a beaucoup travaillé sur donc, la question du rapport politique à la femme. Et notamment, je vois ici une publication « État, nation et fabrique du genre, des corps et des sexualités ». Et c'est une étude qui porte sur 3 pays, l'Iran, la Turquie et l'Afghanistan. Donc, c'est vraiment, on est là dans une approche assez comparatiste. Donc, je vais lui céder tout de suite la parole pour gagner du temps. Mais Fatiha me rappelle que nous avons changé de discutante. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que la nouvelle discutante, ça va être aussi...
Une politologue.
C'est extraordinaire. Donc, elle est politologue et tu as connu Fatima Mernissi. Inga, et Inga, elle est de l'université
Södertörn, à Stockholm.
Voilà, donc tout le monde connaît tout le monde. Tout de suite, la parole à Femme Libre.
Merci beaucoup. Merci à Fatia et aux autres amis qui ont organisé donc cette journée en hommage à Fatima Mernissi. Alors, moi, je suis, vous l'avez compris, hein, d'origine iranienne, mais j'ai commencé à lire Fatima Mernissi assez tardivement, à partir du début des années 1990, puisqu'il y avait en même temps, dans ces années-là, en Iran, moi, je me trouvais aux États-Unis, donc j'étais étudiante là-bas, je lisais aussi beaucoup d'efforts de la part des Iraniennes pour, effectivement, s'en sortir, demander l'égalité dans le cadre d'un régime qui se dit islamique et qui a imposé un certain nombre de lois dites islamiques et limitant de façon très importante les droits des femmes dans ce pays. Alors des femmes qui se disaient elles-mêmes musulmanes et effectivement à travers le magazine Zanan, c'est-à-dire les femmes, tentaient de réinterpréter effectivement un certain nombre de ce qu'elles penser être non islamique dans l'islam, c'est-à-dire par exemple la hadith inauthentique, ou encore certaines aller plus loin et réinterpréter même les versets coraniques, ce qui est dans le contexte de l'Iran des années 1990, début 90, assez important. Donc quand j'ai commencé à connaître Mernissi, à le lire, d'abord en anglais, vu que j'étais aux États-Unis aussi, du coup, alors mes références se mêlent, comme Aurélie, on ne sait pas si... Enfin, voilà. Et par moment, j'ai dû traduire moi-même depuis un texte anglais, et après, je ne trouve plus ça dans le texte français exactement. Donc voilà, pour les références... voilà. Et aujourd'hui, je vis effectivement qu'on voit en France. Deux choses m'ont donc beaucoup aidé grâce à Mernissi, je pense, dans ma pensée, m'a beaucoup aidé. D'une part, elle a contribué à ce que je passe d'une laïciste à une laïque. Et deuxièmement, Mernissi, à la fois dans les textes, mais aussi selon les témoignages d'un certain nombre de femmes que je connais et qui ont milité aussi avec elle, maghrébine, a toujours refusé d'être la réplique exotique de l'Occident, ce que j'appelle la réplique exotique de l'Occident. C'est une femme qui effectivement s'affirme, hein, ça a été dit ce matin, et je vais aussi vous citer une citation de Mernissi qui montre à quel point c'était aussi une femme courageuse en tant qu'intellectuelle et spécialiste, pas seulement en tant que militante, bien sûr. Et aujourd'hui en France et partout dans le monde, la montée de l'islamisme radical et les attentats meurtriers, hein, de ces dernières années en France et en Europe, ont en fait popularisé de nouveau une perspective essentialiste qui consiste à dire que l'Occident est essentiellement différent de l'Orient, ou plutôt l'Orient musulman est essentiellement différent de l'Occident. Et donc, on représente dans ce discours souvent, encore aujourd'hui, et ça revient, les femmes musulmanes comme des victimes, des soumises, des victimes de patriarcat qui trouveraient d'ailleurs son origine dans l'islam. Alors, ce contexte impose aux femmes, à ces femmes musulmanes ou dites musulmanes, parce que tout le monde ne se dit pas non plus musulmane, une double oppression, c'est-à-dire, d'une part, on est face à une islamophobie et une musulmanophobie, selon les termes de Fred Holiday, donc sexuées, qui ont été accentuées et qui ont revitalisé, en fait, les tropes orientalistes et les représentations, comme je viens de dire, des femmes musulmanes comme victimes de l'islam, qui n'ont pas de puissance d'agir et donc qu'elles ont besoin, bien évidemment, d'être sauvées des hommes musulmans et aussi de l'islam. Donc, dans ce contexte, là, les travaux pionniers de Mernissi sur les femmes et l'islam, qui en réalité combinent, et c'est ça l'intérêt pour moi, des analyses historiques. Donc, on a vu Mernissi sociologue là. Je pense que dans les textes que je vais mobiliser, on voit plutôt une Mernissi plutôt historienne, voire théologienne. Les analyses historiques théologiques qui ont tenté d'historiciser et de contextualiser l'islam et les traditions islamiques à travers une approche critique. Mernissi est d'actualité pour nous, d'ailleurs, la preuve, cette réunion. Alors, elle dit par exemple, je cite, « Le Coran est un livre enraciné dans la vie quotidienne du prophète et de sa communauté. Il est souvent une réponse à une situation donnée. » Donc, je suis là par rapport à la petite question, enfin, la petite, pardon, discussion qui a eu, mais le féminisme islamique, c'est ce conjugue au pluriel, c'est pas le féminisme, il y en a des tas de féministes islamiques. Moi, je travaille sur l'Iran et sur la Turquie, et je peux vous dire que les féministes musulmanes turques, par exemple, comme Tüksal Pahida et Tüksal, par exemple, le disent et l'ont dit et l'ont écrit, qu'on ne peut pas s'attendre à une égalité dans le Coran. C'est illusoire. Voilà. Mais bon, je suis là pour ça aujourd'hui. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que par moment, néanmoins, chez Mernissi, j'ai trouvé aussi, elle-même, elle présente des catégories homogènes assez essentialisantes dans ses ouvrages. Par exemple, elle dit « homme musulman ». Elle, au singulier, femme musulmane au singulier, la sexualité musulmane au singulier, de la part d'une sociologue, c'est un peu étrange, l'homme occidental, etc. Là, dans le harem et l'Occident, Shares It Goes West. Alors, son travail peut être qualifié, en tout cas pour moi, de plaidoyer contre cette perspective essentialiste qui, en fait, interprète l'islam comme une force objective et indépendante des facteurs historiques, économiques, politiques ou encore sociaux qui seraient supposés de former les systèmes culturels, la culture des musulmanes et des musulmans, leurs relations sociales et leurs traditions intellectuelles. Moi, ce que j'ai pu trouver dans Mernissi qui m'a beaucoup intéressée, à part bien évidemment les autres aspects, c'est effectivement qu'elle essaye à travers une relecture, pas seulement des textes, mais aussi de l'histoire des pays musulmans, disons depuis l'avènement de l'islam, pour montrer à quel point les femmes, certaines femmes en tout cas, jouissaient en fait du pouvoir et exercer leur pouvoir. Et ça m'a aidé à aller plus loin d'ailleurs que les textes à la disposition de Mernissi à cette époque-là, puisqu'il y a maintenant des livres, fort heureusement, parus dans les années 2000, en anglais surtout, qui se concentrent sur des périodes historiques très importantes. Et j'essaie très rapidement d'en parler, mais uniquement en me focalisant sur les textes de Mernissi. Alors, par exemple, vous le savez, quand Mernissi parle des femmes de la famille du prophète, Khadija, Aïcha, Salama, Hind, Sukaina, etc., sont amplement discutées dans ces textes, en particulier le harem politique, le prophète et les femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le début, Mernissi est dans une démarche, à mon avis, féministe, qu'elle se dise féministe ou non, ça c'est encore autre chose. Par exemple, quand elle dit Salama, elle raconte Umm Salama, après son mariage, elle a interrogé le prophète sur l'absence des femmes dans le Coran. Alors que les hommes y sont mentionnés, et donc le prophète lui aurait répondu, on n'était pas là, hein, c'est Mermissi qui raconte, lui aurait dit que Dieu a parlé aux deux sexes dans des termes d'une totale égalité en tant que croyante, c'est-à-dire qu'en tant que membre de la communauté. Selon Mermissi donc, la question posée par Umm Salama montre l'existence d'une agitation politique dès le début de l'avènement de l'islam. Allah a parlé de vous, n'y a-t-il rien à notre propos qui mérite d'être mentionné? Ça montre pour Mernissi que visiblement ces femmes espéraient un changement avec ce nouveau Dieu, et d'où leur conversion à l'islam. Donc cette attente dès le départ de l'avènement de l'islam de la part de certaines femmes, en tout cas pour l'égalité, elle ne le dit pas, mais c'est évident. Puis les premières femmes musulmanes ont à s'y poser, dit-elle, hein, la question de l'héritage, du droit à la guerre et au butin de guerre, des rapports de genre ou encore la violence physique, et ont demandé à ce que le prophète demande au Dieu de l'islam de faire des déclarations sur la place de la liberté de choix des femmes en tant que croyantes dans la nouvelle communauté. Donc on voit que Mernissi vraiment attaque ces questions-là qui restent encore aujourd'hui bien évidemment d'actualité. Alors parmi, à part Umm Salama bien sûr, il y a d'autres, mais il y a un personnage féminin qui est discuté par elle, qui m'intéresse beaucoup. Je suis iranienne d'origine chiite, et donc Imam Hussein, le troisième imam des chiites, est vraiment le mythe central du chiisme pour les chiites, comme vous le savez. Et donc sa fille Sokaina ou Sakineh, on n'en parle pas de Sakineh en Iran. Moi-même, j'ai pas grandi, Christian le sait, dans une famille religieuse, mais quand même, on ne parle pas de Sokaina, et c'est assez étrange. Et donc, la Sokaina que j'ai trouvée dans Mernissi m'a franchement fascinée, puisque non seulement elle montre que, contrairement à une idée reçue, Sokaina n'a pas été tuée aux côtés de son père à Karbala, mais qu'elle a été là, mais elle avait 9 ans, et elle a grandi, et donc, elle est décédée à l'âge de 65 ans par là. Donc c'était une femme, selon Mernissi, belle, bien aimée, petite fille de Fatima, hein, donc elle était une femme barza, c'est-à-dire chaste, qui sortait se mêler aux hommes sans se voiler ni dissimuler son opinion. Elle était connue pour sa capacité de raisonnement, un mélange explosif de grâce physique, d'intelligence critique, d'éloquence corrosive. Et donc, elle a épousé 5 ou 6 hommes, pas en même temps, hein, et aurait fait des déclarations d'amour enflammées, passionnées, etc. Elle a même emmené un certain nombre de ses maris devant le tribunal, et dès le départ, elle refusait, selon les textes que Mélissa, de se soumettre aux exigences du mari, et elle était une nachézé, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la nosuge, donc la rébellion contre l'autorité donc du mari. J'ai pas le temps de continuer sur cette question-là, mais voilà un exemple par excellence d'une femme, petite fille du prophète, fille d'Imam Hussein, etc. Alors, on se pose la question de savoir pourquoi en Iran, Sokaina, c'est vraiment complètement inexistante, au profit, bien sûr, de Fatima et de Zainab, la sœur d'Imam Hussein, qui sont, bien sûr, des personnalités féminines très vénérées, mais vénérées non pas dans leur aspect de liberté individuelle, mais dans leur aspect de combat contre le mal, etc. Tandis que Sokaina, elle a à la fois ça, mais en même temps, là, je pense qu'elles doivent être valorisées en tant qu'une femme libre. Et voilà, c'est cette liberté-là qui incarne sa personnalité. Ensuite, j'ai trouvé également dans les textes de Mernissi des discussions sur la dynastie des Fatimides. Alors, ne dites pas cet Iranien chiite qui vient nous parler du chiisme, mais les Fatimides, c'est une dynastie d'ailleurs qui a commencé au Maghreb, vous le connaissez, etc. Et donc, en Égypte, au Caire, en tant que capitale. Et donc, les femmes comme Asma, comme Arwa au Yémen, par exemple, qui ont eu énormément de pouvoir et pour lesquelles les khutbas ont été lues. C'est ça l'importance de la chose. C'est-à-dire que dans les mosquées, on lisait des khutbas au nom d'Asma. C'est pas juste que ces femmes avaient ce pouvoir, mais il s'agissait aussi d'être reconnues, d'avoir été reconnues au plan religieux. Ensuite, bien sûr, j'ai continué. Il y a des livres maintenant importants sur cette période fatimide. Je vais très vite. Une autre période qui m'intéresse et que, en fait, je suis en train de publier un livre. Donc, c'est des extraits, mais là. Les Mamelouks, par exemple, hein, Sultan Radia en Inde et aussi Shajarat ad-Dawla en Égypte hein, sont les exemples très importants des femmes de pouvoir qui ont eu un pouvoir à la fois militaire et à la fois politique. Et par exemple, Shajarat ad-Dawla a fait prisonnier le roi de France, lui, 9. Après, vous avez d'autres... femmes tout au long de l'histoire. Moi-même, j'ai continué avec l'époque safavide en Iran, l'époque ottoman en Turquie, avec l'époque actuelle plus contemporaine, mais je voilà. Donc, ce qui montre finalement que ces femmes ont été néanmoins invisibilisées par les historiens arabes qui, selon Mernissi, leur ont réservé un silence dédaigneux. Mais, alors, je voudrais citer quelqu'un, l'éminent historien britannique qui vient de décéder récemment, Bernard Lewis. Et il y en a qui jurent sur Bernard Lewis en tant qu'historien et historienne d'ailleurs, affirme, je cite même ici, avec une assurance qui rappelle celle des ayatollahs, qu'il n'y a pas de reine dans l'histoire islamique et que le mot reine, quand il se présente, est réservé aux souveraines étrangères de Byzance ou d'Europe. Il y a quelques exemples où des trônes musulmans furent brièvement occupés par des femmes, mais cette éventualité était perçue comme une aberration et condamnée comme un scandale. Ça, c'est un mensonge historique que, effectivement, Mernissi a le courage de révéler, de dire, parce qu'attaquer Bernard Lewis dans ces années-là, ce n'était pas chose facile. Alors, ce que fait Mernissi, c'est en fait d'attaquer, de critiquer surtout les juristes musulmans. Je n'ai pas le temps d'entrer dans, mais j'espère qu'on puisse y. Alors, les travaux de Mernissi sont, ce que je veux dire, nous invitent à interroger les préjugés qui entourent la représentation de l'islam comme un corpus de doctrine figée et rigide, d'une part, et elle a aussi bien évidemment beaucoup souligné la gentilité des femmes, l'importance de leur activité, y compris protestataires, et leur place dans la société depuis l'avènement de l'islam. Autre chose, c'est que même ici, pensez aussi, pour ce qui concerne l'époque vraiment actuelle, là, je pense que c'est peu de temps avant son décès, elle disait qu'il y a là les femmes qui participent maintenant de plus en plus à la construction de discours et que le monopole des hommes sur les mots et les symboles vont s'envenimer grâce à ça. Elle faisait allusion aussi à Internet et tout. Donc, les réflexions et les travaux de Mernissi doivent être mobilisés contre l'islamophobie genrée. Ces travaux montrent que les rapports sociaux de genre, comme la religion, ne sont pas fixes et peuvent et doivent être changés à travers les luttes des femmes elles-mêmes dans les sociétés au sein desquelles. Et contrairement aux déclarations des essentialistes, la religion n'est pas univoque et n'a aucune emprise absolue sur les femmes. Merci.
Merci, Azadeh, c'est ça, Kian, pour ce voyage dans le pays des femmes libres. Et c'est un voyage qui va continuer avec Emna Ben Miled. Emna Ben Miled, qui est professeure universitaire en psychologie du genre, mais Emna préfère en et gender. Alors, psychologie en gender, Emna Ben Miled est notamment auteur d'un livre que je considère vraiment un livre fondateur, colossal, qui est à propos de l'identité des femmes tunisiennes et qui s'intitule dans sa troisième édition « Les Tunisiennes en 3000 ans d'histoire ». C'est un livre vraiment qui, pour moi, est un repère actuel, est un grand repère. Et Emna, elle est cofondatrice d'un master en gender à l'université de Tunis. Elle est aussi membre de l'université féministe à Tunis. Et voilà, qu'est-ce que j'ajouterais ? J'ajouterais quand même que Emna a été avec nous dès la première édition des Journées féministes dans le collectif qui a lancé cette idée. Voilà, Emna. À toi la parole.
Si, Rachid et Fatiha, parce que c'est grâce à vous deux que je suis là. Elle aimait qu'on l'appelle Fatima et elle aimait la tendresse. Je vous parle de son livre sur les femmes chefs d'État en islam, mais sans vous parler de l'islam. J'ai déjà évoqué le livre au cours de la première rencontre en 2016 à Tunis. Cette fois-ci, c'est pour essayer d'aller plus loin. Car ce n'est pas tellement la question du pouvoir qui m'intéresse, mais au-delà, il y a l'être féminin et sa dignité harcelée. Quand le livre est sorti, à cette époque, au Pakistan, Benazir Bhutto était Premier ministre et tout le monde a pensé que c'est un cas d'exception. Fatima a dit non. Elle répond que les femmes d'islam ont toujours existé. Elle se lance, elle démontre leur souffle, elle voyage dans le temps entre le XIe et le XVIIe siècle, elle parcourt la rive sud de la planète, du Maroc à l'Indonésie, elle brosse 15 portraits de femmes, elle scrute les détails de leur vie, les raisons de leur montée au pouvoir et leurs actes au moment des gouvernances. En fait, elle a soif d'identifier la part du féminin dans la construction du monde. Elle introduit la notion de bisexualité, de parité, de partage. Une fois, elle raconte dans l'intro du livre, elle confie à l'un de ses collègues le cas d'une femme du Moyen-Âge qui était au pouvoir et il se moque d'elle et il répond « Est-ce que vous avez lu cela dans les Mille et une nuits ?» Elle est face à des collègues universitaires qui lui résistent parce qu'ils sont formatés par la théorie du patriarcat qui remonte à l'Antiquité. Aristote disait de nous, les femmes, vous êtes des êtres incomplets. Et cette théorie a été réinventée par Friedrich Engels au XIXe siècle. Il a dit « les femmes n'ont jamais existé ». C'est une théorie sans amour pour les femmes. Au contraire, elle est remplie de haine et elle est soi-disant scientifique. Les fils d'Engels des deux rives de la Méditerranée sont restés fidèles à leur père. Mais rien ne décourage Fatima Mernissi, elle persévère, et ses voyages documentaires la conduisent tantôt au Yémen du Moyen-Âge, où au même siècle, on peut observer tantôt Asma, puis tantôt Arwa, deux femmes qui ont gouverné le Yémen de ce siècle-là, et les khotbas du vendredi étaient faites en leur nom. Ou bien, à l'intérieur d'un même siècle, par exemple au XIIIe, on observe en Égypte, tout à l'heure vous avez parlé de Shajarat ad-Dawr, qui a repoussé Louis IX, qui a mis Louis IX en prison. Et au même siècle, on observe aussi Khadija Radia, qui gouverne l'Inde musulmane. Et elle avait du prestige alentour et la frappe de la monnaie se faisait en son nom. Ou encore au Maroc, la ville de Tatouane est restée gouvernée par une femme pendant 30 ans. 15 portraits de femmes, c'est peu, me diriez-vous. Non, ce n'est pas peu, parce qu'il y a ouverture d'une brèche dans la théorie du patriarcat. Des briques tombent du mur. Si Fatima avait poursuivi ce thème, elle en aurait rencontré d'autres. Ibn Battuta, lui, a observé de visu les femmes du Moyen-Âge. Dans son tour du monde, lorsqu'il arrive aux îles Maldives, il trouve Khadija en train de gouverner. Il dit « J'ai vu une merveille ». L'île ne connaissait pas le papier et les ordres de Khadija étaient rédigés sur des feuilles de palmier. Et Khadija avait autorisé Ibn Battuta à devenir qadi sur l'île. Plus loin, sur la route de la soie, il tombe sur Urduja. Elle est bilingue de turc et d'arabe. Elle le reçoit assis sur son trône. Elle est curieuse. Elle lui demande de lui raconter ses voyages et de lui donner les nouvelles du monde. Les observations d'Ibn Battuta ou de Léon l'Africain à propos de la sultane Zohra, qui gouverna la ville marocaine au XVe siècle. Ainsi que celle de Fatima Mernissi, vont dans le même sens, elles se parlent, elles s'entrecroisent. Son œuvre à elle présente une valeur heuristique pour trois raisons. 1. Elle a fait bouger les lignes de la théorie du patriarcat. 2. Elle ouvre une piste d'avenir pour les recherches sur le Maghreb. 3. Elle s'oppose par ses résultats scientifiques à la loi salique occidentale. 1. J'ai déjà évoqué la théorie du patriarcat, puisqu'il y a une ouverture d'une brèche. Mais vous le savez, une théorie ne tombe pas rapidement. Si elle chancelle, elle se remet debout parce qu'elle fabrique son immunité, on le sait, en épistémologie. Le point 2 en découle. L'œuvre de Fatima donne du courage aux autres chercheurs maghrébines. Elle m'en a donné. Merci à elle. J'enquête sur une histoire silencieuse et j'ai la chance d'observer qu'elle est féconde en femmes chefs de tribu au Maghreb ou fondatrices de villes. Chez nous, il y a eu beaucoup de femmes chefs de tribu entre la haute antiquité, j'entends celle de l'ère pharaonique, et le 19e siècle, au moment où la France entre en Afrique du Nord, en Algérie. Om Heni, au 19e siècle, est chef de tribu dans le Sahara algérien. Elle combat les beys du Nord qui voulaient contrôler le Sahara. C'est au moment où les Français entrent. Le problème grave est que nos racines identitaires sont sous-analysées. Déjà, avant la fondation de Carthage, par une femme, Alice, émigrée du Liban, on remarque les Amazighites au pouvoir. En Libye, Méduge combat une armée de pharaons. Puis elle entre en Égypte, signe un traité de paix. Et sa trace est restée sur papyrus. Myrine, elle, entraîne sa tribu à tirer à l'arc. Chersonèse a fondé une ville palmerée dans le sud tunisien. Ce sont elles que les Grecs anciens nommèrent les Amazones. D'accord ? D'où est-ce que les Grecs ont-ils tiré ce mot Amazon ? Sans être linguiste, je fais l'hypothèse qu'il est tiré du mot Amazir. Amazon, Amazir. Car c'est ainsi que nos ancêtres se nommaient eux-mêmes. Et Amazir signifie libre. Et la langue Amazir a recouvert tout le Maghreb de part en part. D'habitude, on emploie le mot berbère. Je le considère comme raciste. Barbarus a donné barbare, puis a donné berbère. Dans les droits coutumiers amazirs, il n'y a pas la règle d'exclusion des femmes comme en droit romain. Quand les Romains entrent en Algérie, dans l'Antiquité, c'est une femme qui les arrête. Elle s'appelle Kyria, elle est kabyle. Les Romains avaient pris Carthage, elle le savait. Elle confédère les tribus. Et lorsqu'ils entrent en Kabylie, elle les encercle de partout et elle gagne la bataille. Elle est restée célèbre dans l'histoire de Rome parce qu'elle a conduit une bataille dite circulaire, mais elle n'est pas connue par ses descendantes. Tiski est une autre grande dame de l'histoire du Maghreb parce qu'elle a unifié le Maghreb avant l'heure. Vous ne la trouverez pas dans les livres d'histoire, on gomme le nom des femmes. D'elle descendent de nombreuses dynasties qui ont gouverné en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Espagne. Elle a eu deux maris successifs, El-Mozouar et Asil, et quatre fils, Sanhej, Lamta, Haskoura, Rezoul. Vous trouverez le nom de ses fils dans les livres d'histoire. Alors, les quatre se sont partagés le Maghreb, ont fondé donc les dynasties, ils portaient le nom de leur mère. Pas celui du père, en vertu d'une tradition importante de droit matrilinéaire, les arbres généalogiques sont mixtes, la règle romaine d'exclusion ne joue pas. Lorsque les Arabes sont entrés, ça les a déroutés, ils n'ont pas aimé trouver des noms de femmes. Ils ont dit, mais où passe le nom du père ? Par exemple, Sanhej, mais il y a le nom de sa mère, mais pas le nom de son père, etc. Lorsque les Français... au XIXe siècle, à une époque où la France est fortement patriarcalisée, lorsqu'ils entrent, il se heurte à nos traditions matrilinéaires et l'administration coloniale a obligé des centaines de tribus nord-africaines à passer du nom matrilinéaire, des noms féminins, les Ouled Aïcha, les Ouled Salha, les Ouled Ftima, etc., à les forcer à passer à des noms masculins. Personnellement, j'entame une nouvelle recherche sur le cas d'une femme, Om Malel. Malel signifiant la blancheur en amazigh. Elle a été chef d'État en Tunisie. C'est Fatima Mernissi qui m'a donné le courage d'employer le mot chef d'État. En Tunisie, il y a 1000 ans, au moment où Kairouan était la capitale. Elle est bilingue d'amazigh et d'arabe. Elle a repoussé la polygamie 1000 ans avant Bourguiba. Et elle avait entretenu des rapports diplomatiques avec Sett el-Molk, qui était elle aussi reine en Égypte à son époque à elle. Encore une femme, donc. Tout ceci pour dire les promesses offertes par le courant théorique lancé au départ par Fatima Mernissi, car c'est l'accumulation des résultats scientifiques qui va permettre de montrer, et je passe au troisième point et dernier, un grand contraste entre nos aïeules de la rive sud de la Méditerranée et celles de la rive nord. Toutes les méditerranéennes sont nos aïeules, mais l'histoire de la rive nord diffère parce qu'elle a été gérée par la loi salique d'origine romaine. C'est une loi cruelle qui a écarté les femmes occidentales du pouvoir politique pendant 2000 ans. Dans les monarchies européennes, elle a été supprimée d'abord dans les pays nordiques, Danemark les années 50 et Suède les années 70, en Belgique dans les années 90, elle persiste en Espagne. Dans l'histoire de l'Europe, la loi salique a admis la régence en attendant la majorité d'un fils, point à la ligne. Les épouses de rois sont appelées reines, mais elles portent une couronne trompeuse. Plus que cela, c'est la femme et toute sa lignée qui sont exclues. Si un prince, par exemple, prétend monter par la lignée maternelle, c'est interdit. En France, au Moyen-Âge, on disait « seul le sang masculin peut transmettre la dignité ». Quand il n'y a pas d'héritier mâle, on passe par les cousins. Dans l'histoire de France, le cas de Louis XV, de François Ier. Dans les conflits de succession, par exemple, si un père veut placer sa fille ou un prince veut monter par la lignée de sa mère, on brandit cette loi qui a pris force de constitution. En Espagne, au XVIIIe siècle, la loi salique a provoqué une guerre civile. Le sang a coulé. Et dans l'Espagne actuelle, les féministes espagnoles sont en train de lutter pour qu'on abandonne la loi salique. Zapatero a été Premier ministre, il leur avait promis cela. Après, il ne l'a pas fait parce qu'il faut dissoudre deux chambres, le Congrès et le Sénat. Il ne l'a pas fait. Et l'actuel Premier ministre dit « je n'ai pas le temps de faire ça ». Pareil pour l'héritage de la terre, on parle de terre salique. Et toutes les lois européennes en faveur de l'égalité entre les deux sexes sont des lois tout à fait récentes dans l'histoire de la Méditerranée. Ceci a engendré le problème théorique suivant. Lorsque les Occidentaux travaillent sur les habitants de la rive sud, ils projettent leur vision historique. Je vous donne deux exemples et je finis. En Algérie, les Touaregs du Sahara ont toujours dit « Nous sommes les descendants d'une femme qui s'appelle Tinhenen. » Quand les Français sont entrés, ils se moquent, c'est une légende. Et puis, on retrouve son tombeau, ses restes, ses bijoux en or. Et cette femme contrôlait le commerce transsaharien de l'or qui partait de l'Afrique profonde vers Carthage et qui a permis à Carthage d'être une cité très riche. Voilà. Deuxième exemple, Shamsi. Shamsi est chef de tribu du vivant de Ibn Khaldoun. C'est lui qui en parle. Lorsqu'un orientaliste tombe sur son cas, il dit « c'est impossible ». Ibn Khaldoun est peut-être un génie, mais c'est son inconscient qui lui a joué un mauvais tour. Et il y a, dans ces pays-là, des sorcières. Ah, il a dit « sorcière », le mot est jeté. On y arrive, car les Arabes, en entrant en Afrique du Nord, n'ont pas fait mieux. En se heurtant à Dehya, une femme amazigh qui les a combattus, il décide de lui défigurer son nom d'origine sous le vocable arabe de Kern, la Kaena. Ce mot signifiant, au sens faible, une femme qui devine l'avenir, elle ne l'a pas deviné d'ailleurs, et au sens fort, une sorcière, faisant d'elle la sorcière numéro 1 du Maghreb, et je vous remercie.